Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto et des motards sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Le tout terrain à l'affiche de cette émission aujourd'hui pour ce deuxième rendez-vous de cette saison radiophonique 2023-2024. Et nous avons rendez-vous avec notre spécialiste de l'off-road, Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Oui, bonjour la miche. Aujourd'hui, émission spéciale Motocross des Nations. Motocross des Nations, c'est un peu les Olympiades du motocross. Ça se passe une fois par an et surtout cette année en France. Donc, nous allons avoir Philippe Lecomte, qui est président du Motoclub d'Hervé, qui va nous parler de la mise en place de cette grosse manifestation. Nous allons avoir aussi deux mots en quatre temps avec Gilou, qui va nous parler des équipes présentes, à peu près 40 équipes de trois pilotes. Ensuite, Pascal Audicaire, qui vient de sortir un bouquin sur la saga de l'équipe de France de motocross des Nations, avec 6 titres. Ensuite, avec Gilou, avec le championnat du monde MXGP MX2 2023, ainsi que d'autres informations. Un mot sur le championnat de France des courses sur sable qui vont débuter, et aussi la finale du championnat du monde de Speedway, qui s'est déroulé en Pologne samedi. Et ensuite, quelques informations de tout terrain, comme d'habitude.
Très bien, Guy. Un programme bien rempli. Et je te propose de passer un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Ok.
Hey, Deidre, how's it going?
Hi, Joe. Listen, I need your help.
Yeah?
I am sick and tired of Oscar. He is being a real pest.
Yeah.
Can you please talk to him? I can't stand it.
Hey, hold on. I got another call here. Hey, Oscar.
Hey, Joe, man. You know, Deidre's on my last nerve, man. She all over the Facebook talking about me, man.
You know what? I'm going to get the two of you on the line together and have you work it out.
I can't stand you. You know I can't stand you. I can't stand you. You know I can't stand you. I can't stand you, Deidre, and the way you do.
You always posting nasty things about me, and that's the very reason I can't.
You make me so mad, but I ain't studying you. Everything I say about you is absolutely true.
When I see you, before we even speak, you get on my nerve from across the street.
You tell our friends on Facebook that I treat you really mean, but you're the one who's a pest,
huh?
And you make me want to scream.
Ha! I can't stand you. No, I can't stand you. I can't stand you. You know I can't stand you. I can't stand you, Deidre, and the way you do.
Can't stand you in the morning. Can't stand you at night.
Can't stand you in the dark. Can't stand you in the light.
Can't stand you on land.
Can't stand you in the sky.
Can't stand you on the days of the week that end in Y.
You remind me of a sister of mine, always shouting and riding my behind.
Oh yeah, you're just like my big brother, always talking loud,
huh?
And saying nothing.
I can't stand you. You know I can't stand you. I can't stand.
To be amazed, taking videos with people talking about you can't stand me.
Who, me?
Yeah.
in Memphis know about you?
All over Facebook. I can't stand Detroit. Oh my God.
I don't know what you're
so
talking
embarrassing.
About.
You know what? You really need to stop.
But I mean, even your friends know I can't stand you.
Yeah, anymore. Right. I think everybody know. Even the yeah. President of the United States knows.
Everybody
know. I can't stand Detroit.
The baby knows. Honestly, I just can't stand you.
I can't stand you either. And I want
but
everybody
you know what,
to know.
DJ, no, I'm going to tell you
but
something.
But I ain't put no video out on you.
See, I can't stand you. But
you
I'm
wait. I'm going to put a video out on you.
I don't put a video out on me.
I can't stand you, Oscar.
But I love you just
the same. I
love
you too, Oscar.
Bah. Guy, là, nous avons Pascal Audiquer qui est au téléphone.
Pascal Audiquer, bonjour.
Bonjour Guy.
Tu me fais rigoler, hein. Et ça va, tu es arrêté là, parce que tu conduisais. T'as l'air en direction de RD, alors.
Je repars du circuit, je suis reparti du circuit. Je suis venu voir un peu où s'en étaient les préparatifs. Et là, je vais rejoindre les Bleus de l'Équipe de France dans leur lieu de villégiature.
Ah, d'accord. Et donc, tu vas aussi sortir un bouquin très intéressant sur les 6 victoires du team français en motocross des nations. Hein, le premier, c'était en 2001, si je ne me trompe pas. À Namur, circuit favorisé pour les Belges et puis les Suédois éventuellement. Enfin, on reviendra là-dessus. Et alors, comment est venue l'idée de sortir ce bouquin de 200 pages, je crois?
Ouais, alors il fait plus de 200 pages effectivement, Guy. Alors en réalité, c'est l'histoire de l'équipe de France depuis 1948, puisque l'équipe de France, la première participation, c'est en 1948, l'épreuve est née en 1947. Alors ils n'ont pas tout le temps été là, hein. Dans les années 50, il y a eu des années où il n'y avait personne, parce que la fédération ne mettait pas de moyens et les pilotes n'étaient pas du niveau. Donc là, en 2019-2020, on a été un peu bloqué chez nous avec le Covid, donc j'ai commencé à cogiter un peu parce que ça me démangeait, le poignet me démangeait, et puis j'ai pensé à cette histoire de l'équipe de France aux Nations. Pourquoi? En partie parce que je connais bien l'histoire au moins depuis les années 2000, puisque ça va faire 15 ans que je travaille au sein de l'équipe de France pour la Fédération Française au niveau des réseaux sociaux, des photos, des communiqués de presse, donc je connais plein de trucs de la vie des Bleus et des anecdotes. J'ai des photos intimistes. J'avais plein de documents. Donc j'ai proposé au président de la fédération de mettre ça sur papier. Et tout de suite, Sébastien Paré a dit banco. On a parlé d'échéance. 2023, d'abord c'est le 110e anniversaire de la fédération. Et puis c'est aussi le retour du motocross des nations en France à Ernée. Donc on a jugé que c'était le bon moment. Donc je me suis mis au boulot en 2020. J'ai récupéré, allé chercher des témoignages, essayé de retrouver des documents historiques. Alors j'en ai eu une partie parce que j'ai couvert mes premières nations en 1980 à Farley-Castol. Après, on a eu accès aux archives des îles sur la rivière, donc Moto Revue qui était quand même la référence des magazines faits dans du motocross. Après, j'ai eu un ami qui s'appelle Guy Pilarzic qui était au motocross des nations à Cassel, donc il m'a fendu des photos de Cassel.
Oui, c'est...
Et après, il y a eu malheureusement des éditions plus anciennes qui ont eu lieu aux Pays-Bas, en Angleterre ou en Belgique. Et j'ai beaucoup de connexions, j'ai fait beaucoup de recherches. Et c'est impossible de trouver des vieilles photos parce que malheureusement, quand les photographes décèdent, leur patrimoine, on ne sait pas trop ce qui vient.
Oui, c'est vrai.
Et pour l'anecdote, il y avait un Anglais qui avait des photos d'archives. Et quand j'ai voulu lui acheter, il m'a dit que ce n'était pas possible parce que le Brexit, il n'avait pas le droit de me vendre des photos.
Oh.
Bon, voilà. Donc... On a été un petit peu light, je dirais, en photo sur les premières années. Et puis, ça s'est enrichi à partir des 70, notamment, et jusqu'en 2022, l'année passée, quand on fait deuxième à Red Bull. Là, on avait de la matière. Après, j'ai passé beaucoup de temps à aller rencontrer les acteurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont les acteurs qui racontent ce que ça représente les nations, comment ça s'est passé. Donc, il y a beaucoup de témoins. Il y a plus de 40 témoins qui interviennent dans l'ouvrage pour nous parler de cette épreuve magnifique qu'est le motocross des nations.
Donc, tu as repris depuis 1947, alors, si j'ai bien compris.
48, Guy. 47, 48. La première année, c'était à Wassenaar aux Pays-Bas, il n'y avait pas de Français. En 48, il y a des Français qui sont allés rouler à Namur. Après, il y a eu pratiquement 10 ans où il n'y a pas eu d'équipe de France. Et puis après, c'est venu... C'est le niveau des pilotes français. Au début, les pilotes français se cantonnaient à la France parce que le marché... Le sport est dominé par les Nordiques, les Anglais, Suédois, qui gagnaient souvent. Donc les Français hésitaient à sortir à l'étranger, à aller faire les Grands Prix. Et comme ils n'allaient pas rouler en Grand Prix, ils n'allaient pas aux Nations parce qu'ils n'avaient pas le niveau pour faire les Nations. Donc tout ça, ça a été, hein, on connaît l'histoire, Daniel Péan, premier Français vainqueur d'un Grand Prix en 77, Jean-Jacques Gounod qui a gagné un Grand Prix 500 en 79 à Thouars. Donc tout ça fait qu'à un moment, dans les fin des années 70, il y a vraiment eu un élan français, et à partir de là, on a commencé à avoir vraiment des résultats qui n'étaient pas liés à la chance, mais qui étaient liés au potentiel. Et donc on revient, tu l'as dit, ouais, il y a plus de 200 pages de mémoire, c'est 208 pages, j'ai fait le livre, avec tous les résultats, toutes les stats des nations, de tous les pilotes français qui ont participé. Donc voilà, il y a un peu de lecture pour l'hiver au coin de la cheminée.
Ah d'accord. Ouais, parce que la France, elle a quand même, à plusieurs reprises, monté sur la troisième marche du podium, hein, dans les années 50. Mais c'était en dents de scie, quoi. C'était troisième, ensuite cinquième, neuvième, pas classé du tout. Je prends l'exemple aussi en 68, à Kishiniev. T'en parles, hein, je suis certain.
Oui, j'en parle, bien sûr.
Avec le pacte de Varsovie, enfin, etc., quoi. Donc,
oui,
et il y a une page alors pour les 6 titres français. Hein.
Alors, on parle bien sûr des 6 titres français. D'ouvrage, de toute façon, j'ai choisi de commencer par 2014. Parce qu'il y a eu 2001, il y a eu Namur en 2001, mais il n'y avait pas, c'était pas structuré, c'est arrivé presque, on ne va pas dire par hasard, mais par surprise un petit peu. Parce que les Belges étaient hyper favoris, les Américains ont déclaré forfait parce qu'il y avait eu les attentats du World Trade Center juste avant. Et si Smith n'avait pas eu des problèmes, les Belges auraient gagné. Bon, les Français ont gagné, on va pas. C'est une belle victoire, on va pas dire, ils ont été la meilleure des autres. Mais si tu veux, 2014, là, il y a vraiment eu quelque chose, il y a un ciment qui a été fait, il y a eu une vraie équipe de France avec un vrai état d'esprit. Donc l'ouvrage commence par 2014, parce que 2014, c'est le début, hein. Les Français ont gagné 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ils ont gagné 5 d'affilée, donc c'est pas venu, ces succès-là sont pas venus par hasard. Donc on est parti, le coup d'envoi du livre, le premier chapitre, c'est 2014.
D'accord. Un petit mot sur le motocross des nations. Les chances françaises sont énormes.
Eh ben écoute, on va dire que tout le monde s'attend à un match France-Australie.
Oui, aussi, oui.
C'est du motocross. La France a une belle équipe. Alors, il y avait bien sûr un petit doute parce que Maxime Renault n'a pas participé le dernier Grand Prix après une chute aux Essels samedi en Angleterre. Maxime a roulé la semaine dernière, donc il est bel et bien présent dans l'équipe. On a donc lui avec Tom Vial et Romain Fèvre qui a gagné le Grand Prix cette année. Donc on a une belle équipe. En face d'eux, il y a des Australiens avec Jet Lawrence, la pépite australienne à 40 ans, qui est triple champion des États-Unis cette année. Il a récupéré le titre 250 Supercross, 250 Motocross et 450 Motocross et 450 Super Motocross. Avec son frère Hunter, c'est deux sacrés gaillards. Donc on s'attend à un duel entre l'Australie et la France, mais il y a plein d'autres équipes. L'Italie, une bonne équipe. L'Espagne, une bonne équipe. Les Belges ont une belle équipe. Donc, comme toujours, les nations, on sait, il y a 3 pilotes, il y a 6 courses, il y a 5 résultats.
Beaucoup
de choses peuvent arriver, mais les Français ont une très, très grosse cote, c'est certain.
Mais l'équipe américaine, bon, c'est pas des secondes zones, mais c'est pas les meilleurs qui arrivent sur Ernest.
Alors, déjà, on a une équipe américaine, donc on voit le verre à moitié plein, on est une équipe. À un moment, on avait peur de prendre la voie. Les Américains, malheureusement, tous les contrats se terminent fin septembre. Donc, un des meilleurs Américains, Jeff Sexton, quitte Honda pour signer chez KTM. Il va rouler KTM à la semaine prochaine. Donc, il a obligatoirement, Honda, il n'était plus sous contrat Honda. Il débute sur la KTM, il ne l'avait pas testé, donc il a déclaré forfait. Eli Tomac, qui avait gagné l'année passée, lui, c'est une rupture des tendons d'Achille, il a toujours pas repris la moto. Donc il y a eu tout un tas de forfaits qui ont eu lieu. Mais grâce à Roger De Coster, le fameux Roger qui est à la tête de la sélection américaine, il a réussi à convaincre 3 Américains de venir. Et moi je dis qu'il faut s'en méfier parce que Aaron Tessinger, c'est quand même pas un manchot. Il fait du top 5 aux US et il avait vraiment la volonté de venir défendre les couleurs américaines. Christian Craig, c'est pareil, et RGM Shire. Donc ces 3 garçons. Qui sont pas les plus cotés aux États-Unis, mais qui veulent défendre, qui ont l'amour du maillot et qui veulent défendre les couleurs d'Amérique. Donc attention à eux, ça reste des outsiders de toute façon.
Et tu parlais de Roger De Coster. Bon, Roger a choisi 3 pilotes, mais enfin, un peu bizarrement, c'est quand même KTM Husqvarna, c'est-à-dire dans le même giron par rapport à des pilotes Yamaha ou Kawasaki, par exemple.
Tu veux, Kawasaki USA ne veut pas envoyer ses pilotes. Il y avait Jason Anderson et Canciarulo. Donc Kawasaki USA dit non, nous on ne veut pas envoyer nos pilotes. Donc les pilotes sont sous contrat avec les teams. Après chez Yamaha, Eli Tomac, je l'ai dit, il est out pour l'instant. Cooper Webb vient de signer, il a fait ses premières courses là il n'y a pas longtemps. Après, l'avantage, Roger De Coster, travaillons pour le groupe KTM, c'est sûr qu'au niveau de l'intendance et de la logistique, c'est beaucoup plus facile puisque les motos sont en Europe. Il ne faut pas oublier que le déplacement de traverser l'Atlantique, envoyer des motos en caisse et tout, ça coûte de l'argent. Donc il y a une économie pour le team. Et après, tu parlais de Honda. Et ben Honda, les pilotes officiels Honda aux États-Unis, mis à part Sexton qui part chez KTM, c'est qui ? C'est Jet et Hunter Lawrence qui roulent pour l'Australie.
Mis
à part Sexton, il n'y a pas de top pilote américain chez Honda.
C'est bizarre ça.
Les Américains sont forts, mais tu regardes cette année, la majorité des titres, c'est des étrangers qui les ont décrochés.
On a eu
Dylan Ferentis dans le passé, on a eu Jean-Michel Bell, bien sûr, on a eu Christophe Porcel. Et aujourd'hui, c'est les Australiens qui décrochent les titres américains.
Écoute, Pascal, on te souhaite un énorme succès de la sortie de ton bouquin concernant le motocross des nations.
C'est merci.
Vraiment, ça sera vraiment à mettre dans sa bibliothèque et, comme tu dis, le lire au coin du feu tout l'hiver.
Bonne journée à tous.
Salut Pascal.
Salut.
Voilà, Guy, nous, au téléphone, nous avons Philippe Lecomte, qui est le président du motoclub Dernay.
Oui, alors, bonjour, Philippe Lecomte. Beaucoup de travail cette semaine, alors, pour préparer le circuit et l'accueil, etc.
Oui, bonjour à tous. Alors, beaucoup de travail, ça fait un petit moment qu'on est dedans. Voilà, mais oui, effectivement, là, ça commence à se mettre en place. On a l'arrivée des différents prestataires, du promoteur, voilà, donc on est en train de tout caler pour le moment.
Est-ce que vous avez téléphoné à la météo ?
On n'a pas téléphoné, mais je ne vous cache pas qu'on suit pas heure par heure, mais...
Presque, oui, d'accord.
Presque, les conditions météo, a priori, pour l'instant, les prévisions sont...
Météo, et puis vous n'avez pas oublié de prendre la Marseillaise.
Ah bah oui, forcément, forcément. Donc dans tous les cas, quel que soit le résultat, sera forcément chanté par le public.
Voilà, parce que le public est fidèle à RD, et surtout pour des grandes épreuves. Enfin, c'est l'épreuve, c'est les Jeux Olympiques, on pourrait dire.
C'est ça. C'est toute proportion gardée, c'est les Jeux Olympiques du motocross.
Je me permets une question, Philippe. Est-ce que vous avez tous les hymnes nationaux en stock ?
Alors, du coup, ça, faudrait poser la question à Infront.
Parce qu'il y a 40 équipes qui participent, c'est ça ?
Ouais, 38 exactement.
38 exactement, oui.
Poser la question, puisque c'est le promoteur qui se charge de diffuser... les hymnes nationaux.
Ah oui, d'accord, oui.
sur le circuit, le jour même, ou même avant, combien de personnes sont sur place du club pour gérer les entrées ?
Là, on a un staff de 1200 bénévoles.
Ah, 1200,
ouais,
d'accord.
Ouais. Pour pouvoir tout mettre en place.
Est-ce que la piste, c'est la même configuration ?
Même configuration que l'année dernière, on a rien changé. Ça a bien fonctionné pour le Grand Prix, donc comme ça a fonctionné, on a gardé exactement la même configuration.
D'accord. Donc, Motocross des Nations, vivement, parce qu'en 2020, il était annulé à cause du Covid.
Hein. C'est ça, bah, comme de nombreuses manifestations à ce moment-là, oui, effectivement, on n'a pas organisé 2020. Donc,
cette annulation de 2020, ça a donné un coup quand même au club.
On a réussi à tirer notre épingle du jeu quand même, voilà, on a effectivement une petite perte financière, mais bon, on a eu quand même le soutien des collectivités et... Voilà, de toute façon, on avait pas le choix du tout, donc voilà, c'est ainsi.
Oui, donc vous dites que c'est la France qui va gagner, bon, il y a...
Ah, je n'ai pas dit que c'était la France qui allait gagner. De toute façon, il y aurait la Marseillaise que la France gagne, mais je ne pas.
Ensuite, il y avait l'équipe américaine, parce qu'à un moment donné, peut-être pas d'équipe américaine. Alors bon, pour la fin, il y a quand même trois pilotes qui vont être place à Ernée. Parce que l'équipe américaine, c'est les tenants du titre, hein, manager Roger De Coster. Mais les pilotes qu'il a sélectionnés, bon, c'est des pilotes KTM et Husqvarna, c'est-à-dire du giron de KTM. Il n'y a pas de Yamaha, Kawasaki, Honda.
Ouais, bah écoutez, après, ça c'est les...
Ouais, c'est leur truc, quoi.
C'est leur... J'ai envie de dire que c'est leur problème à eux. Voilà, après, il ne faut pas oublier quand même que c'est des pilotes qui ont quand même un... Deux d'entre eux finis dans le top 5 aux US, et c'est Christian Craig qui a fini deux fois champion US, donc c'est pas non plus... c'est pas une équipe B, quoi, c'est une vraie équipe américaine.
Voilà. Une équipe aussi dangereuse, c'est l'Australie.
Oui, bah oui, effectivement, oui, avec les frères Lawrence, oui, c'est... Oui, c'est sûr, oui, c'est... ça va, ils vont forcément être aux avant-postes. Ouais.
L'Australie, enfin, bon, ensuite, il y a comme la Suisse, la Belgique, bon, c'est des pays, peut-être pas sur la plus haute marge du podium, mais sur le podium quand même, peut-être sur la deuxième, troisième place.
On a la chance d'avoir cette huit équipes qui sont potentiellement capables de monter sur le podium, donc sportivement, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Et surtout que l'équipe de France, les trois pilotes, c'est trois champions du monde, ex et champion du monde, quoi, c'est assez rare, quoi.
Vraiment une belle équipe de France.
Ah, parce que comme Romain Fèvre, je sais pas ce qu'il a mangé en fin de saison, mais gagner tous les grands prix, bien qu'il y a eu quelques blessés, c'est bon, on n'a pas vu Erling ou bien Geyser, mais Geyser sera là, tiens, avec l'équipe slovène, mais bon, avec des pilotes de moindre prestance, enfin, il peut gagner aussi une manche. Voilà, merci pour votre interview,
merci.
Monsieur Lecomte.
Merci. Merci, au revoir.
Au revoir.
Nous avons Gilou au téléphone. Gilou de deux mots en quatre temps, géniteur de mes motocross, le site.
Faut pas l'oublier. Oui. Gilou, donc oui. La grande épreuve, c'est pas la grande émission, mais la grande épreuve aura lieu à Ernée, là, ce week-end. Hein. Donc, il y a un record aussi, il y a presque 40 équipes.
Alors, c'est pas un record, mais c'est le haut du pavé quand même. Hein. En fait, on aura, au début, c'était prévu pour 39 nations. Hein. La FIM a publié la liste des teams, donc 39 pays. Mais en fait, il y a un désistement, il y a eu des problèmes avec l'équipe du Danemark. Donc, ouais. le Danemark ne participe pas. Ce qui fait qu'il y aura 38 équipes, a priori, c'est les inscrits, hein. A priori, il y a 38 équipes au départ. Donc c'est vraiment, au terme du nombre de participants, c'est le haut du panier quand même. Là, on a pas mal. Ce qui fait qu'on va avoir, par exemple, une finale C, pour commencer, et une finale B, et ensuite donc la grande finale, qui est la finale A, parce que donc... Ça y va avec les qualifications. Là, en motocross des nations, on a de vraies qualifications. Quand même, une équipe
à la limite comme la France, il suffit qu'il y ait un problème en qualification, elle peut très bien ne pas être qualifiée.
Hein. Ouais,
même, j'espère pas, mais c'est quelque chose qui peut se produire. En théorie, ça peut se produire.
En effet, oui. Tu parlais des teams, par exemple. Enfin, il manque des teams. Le Japon, par exemple, venait assez régulièrement. Mais bien sûr, pas des teams comme du Brésil, l'Argentine. Bon,
Mais en fait, le Japon, il vient pas souvent non plus. Hein. Mais faut voir qu'ils ont des championnats avec des. Alors là, j'ai pas. Tu me poses une colle parce que j'ai pas regardé leur championnat. Où est-ce qu'ils en sont? Souvent, au moment des nations, ils sont encore dans leur championnat au Japon. Alors ça leur cause peut-être un problème. En plus, le Japon, c'est pas la porte à côté, donc le déplacement, ça coûte cher, et de plus en plus cher pour venir faire des grands déplacements comme ça. Et on le sait, le motocross des nations, c'est presque uniquement pour la gloire. Hein, au niveau des primes, il n'y a rien. Hein, parce que je crois que les primes pour l'équipe vainqueur, ça doit être dans les 3 000 à 4 000 euros, quelque chose comme ça, donc c'est rien du tout, hein, pour être le vainqueur.
Ouais. Hein,
donc le Japon a peu de chances de remporter l'épreuve, ce qui fait que de toute façon, ça sera un déplacement à leurs frais. Alors je pense qu'il y a eu ce choix de fait, et puis c'est pas grave, hein, tant pis. De toute façon, dans le Japon, on a surtout un pilote qui est du top niveau, c'est Joe Shimoda, qui fait le championnat américain de supercross et motocross.
Ouais.
Mais sinon, les autres, ils ne courent qu'au Japon, alors ce qui fait que c'est... ils n'ont peut-être pas un niveau qui peut permettre des résultats de leur équipe au final. Hein, parce qu'il faut quand même se savoir et se mettre toujours en tête que le motocross des nations, c'est une course par équipe, donc de 3 pilotes. Et le but, c'est de classer son équipe le mieux possible.
D'accord. Gilou, ton pronostic, le podium, les 3 premiers?
C'est simple. un pronostic, c'est simple. Mais pour moi, il y a une équipe ultra favorite, c'est la France. Et quand je dis ça, c'est pas du chauvinisme, parce que c'est une équipe où il y a 3 catégories. Hein, 3 catégories dans l'équipe. Il y a la catégorie MXGP, donc qui court. Il y a la catégorie MX2, donc c'est de 250 cm3, et la catégorie Open. En théorie, ils ont le choix de la cylindrée, mais en général, catégorie open, ils sont tous en 450, hein, parce que c'est quand même des motos plus puissantes, et donc sont tous en 450. Mais il faut voir que dans chaque catégorie, on a, nous, un pilote français qui est capable de gagner sa catégorie. Et donc, c'est ça qui est très important. Romain Fèvre, qui va courir en MXGP, est capable de gagner sa catégorie. Tom Vial, qui nous revient des États-Unis pour cette épreuve, il va courir en MX2, lui aussi il est capable de gagner sa catégorie. Et on a Maxime Renault, hein, que vous connaissez bien à Kikakou, qui va courir à la catégorie Open, et lui aussi est capable de gagner sa catégorie. C'est-à-dire que Romain Fèvre et Maxime Renault sont capables de faire un premier et deuxième, par exemple, lorsqu'ils vont courir ensemble dans leur manche. Le système du motocross des nations, c'est première manche, on a la catégorie MXGP qui court avec la catégorie MX2. Ensuite, c'est la deuxième manche, c'est le MX2 qui court avec la catégorie Open. Et ensuite, la troisième manche qui court la catégorie Open et MXGP. Ce qui fait que ça donne donc 3 manches, ce qui fait que chaque équipe marque 6 résultats et on retire le plus mauvais résultat. Donc il reste, on peut dire, un résultat brut, c'est 6 résultats. Résultat net, c'est ça qui compte, c'est les 5 meilleurs résultats. Et c'est ça qui fait le classement des équipes. Alors, on peut penser légitimement que Romain Fèvre est tout à fait capable de gagner la première manche, par exemple, et que Tom Vial, qui va courir en MX2, donc confronté au 450, il est tout à fait capable de classer sa moto, sa 250, dans les 7-8 premiers du MXGP. Et si c'est, on lui demande en général au pilote qui fait le 250, la catégorie MX2, on espère qu'il se classe dans les 10 premiers, parce que c'est souvent avec le pilote MX2 que la différence est faite par rapport au nombre de points qu'on peut marquer. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un Maxime Moineau qui sera là, encore une fois, à l'Open. Et a priori, moi, c'est vraiment la France qui est ultra favorite. Le petit point d'interrogation et le petit doute que j'ai, c'est concernant Maxi Bruno, qui s'est blessé à la dernière épreuve, au dernier Grand Prix en Angleterre, et du coup, il n'a pas participé au Grand Prix en Angleterre.
Et sa blessure, je te coupe.
Qu'il a bien récupéré et qu'il est en forme pour l'épreuve des nations.
Il s'est blessé gravement, non ?
Non, mais c'est par précaution qu'il n'a pas fait le Grand Prix d'Angleterre. Ouais. Donc, voilà. Mais tu sais, en motocross, comment ça se passe ? C'est que sur les blessures et tout, on n'est jamais tellement informé de savoir dans quel, comment est le pilote et tout. Est-ce qu'il sera au top niveau ? J'espère. Bon, il y a eu quand même 15 jours d'intervalle entre le Grand Prix d'Angleterre et puis le Motocross des Nations qui aura lieu donc dimanche. Ce dimanche, et bien voilà, on est dans un délai qui permet de se refaire une santé. Bon, après, s'il a vu quelque chose de plus grave, je pense que si ça avait été plus grave, on l'aurait su et il aurait été remplacé. Hein. S'il y avait un doute sur sa participation, c'est pas quasiment à la veille de l'épreuve quand même qu'ils auraient fait ça, de pas donner la formation.
Gilou, Gilou, excuse-moi de t'interrompre. Tu sais qu'on est dimanche, hein. Tu peux nous donner les horaires du départ. Il y a deux manches, ouais. Dans ce Grand Prix des Nations là.
Il y a trois manches. Trois manches, oui, le motocross des Nations, c'est spécifique. Alors, pour ce dimanche, la première manche, c'est la catégorie MXGP MX2. Donc, c'est à 13h qu'elle partira. C'est à 13h.
Oui.
La seconde manche, c'est la catégorie MX2 et Open, elle partira à 14h30. Et la dernière manche, catégorie Open MXGP, c'est à 16h. Donc, c'est voilà les trois manches. Donc, ça transmis bien sûr à la télé, sur le site au promoteur, sur le site du promoteur, bien sûr, sur internet. C'est retransmis à la télé et ça retransmet aussi donc sur Automoto la chaîne, ça c'est pour les trois manches, elles seront en direct. Et ça retransmet, j'ai vu également sur l'équipe 21. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pour le grand public, là, c'est pas une chaîne payante, donc c'est ouvert. Hein, voilà. C'est en léger différé, alors là j'ai pas les horaires de diffusion, mais c'est en léger différé, ça doit être à une demi-heure près ou quelque chose comme ça. Là. Ils n'ont pas le direct, donc c'est en léger différé. Et puis c'est retransmis également sur Eurosport 2. Je crois un peu plus tard, en fin de journée. Donc c'est une bonne promotion quand même pour le motocross, hein, parce que ce sont c'est diffusé. Bon, bah, l'essentiel, c'est que pour les gens qui sont pas vraiment des spécialistes, ils peuvent regarder à divers moments de la journée. Donc c'est vraiment intéressant pour la promotion du motocross. Hein.
Est-ce que le classement, tu sais, le classement des équipes B et C, ça se déroule le dimanche matin ?
Alors, ouais, tout à fait. Alors, le catégorie C, donc en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a un tirage au sort. Un tirage au sort, ça c'est encore une fois, c'est quelque chose d'unique en motocross des nations. Le tirage au sort aura lieu vendredi à 12h. Il y a un tirage au sort avec toutes les équipes, c'est-à-dire par exemple, on tire l'équipe d'offre. Un numéro. Et si, pareil, ce numéro correspond à la place qu'ils vont prendre sur la grille pour les qualifications. Donc, il faut savoir que si on a une bonne place, on peut choisir en premier, on choisit sa place, donc c'est le mieux. Et plus on a un mauvais tirage au sort, plus la place, si on est le 38e, on prendra que la place qui restera, hein, qui sera disponible. Bon, voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Bon, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une météo qui est très favorable. Donc ça, c'est important. Ça prouve que ça nous prouve une chose, c'est que les courses vont se dérouler dans des conditions tout à fait normales. Alors, il y avait toujours, à cette période de l'année, on avait peur qu'il y ait de la flotte, de la boue, de la gadoue. Bon, après, c'est être un petit peu tronqué à cause de ça. Là, il y aura donc ça. Les 19, à l'issue des qualifications, on prend les 19 meilleures équipes qui seront qualifiées directement en finale A. Les autres vont en finale C et la meilleure équipe de la finale C est qualifiée pour la finale B. Et ensuite, on prend de mémoire, ça doit être la 20e équipe à la 36e ou 37e équipe où sont qualifiées. Il y a 8 équipes, alors faut faire le calcul. Hein. Il y a 8 équipes qui vont en finale B, et donc celle qui remporte la finale C est qualifiée pour aller en finale B. Et celle qui remporte après la finale B est qualifiée pour, c'est la 20e de la finale A. Et puis donc, après, c'est la grande finale qui a lieu le dimanche. Mais bon, la finale C, elle a lieu le samedi soir, et la finale B a lieu le dimanche matin, et puis la finale A, bien sûr, le dimanche après-midi, avec les horaires que je vous ai dit tout à l'heure.
Donc, de la course le samedi et le dimanche.
En plus, là, c'est très intéressant le samedi, parce que le samedi, tu as les, donc, c'est ce que je disais, tu as les qualifications. Et là, les qualifications, c'est pas comme en Grand Prix, où même si maintenant ils donnent des points, c'est autre chose, on peut en parler du bien ou du pas bien. Mais là, pour les nations, c'est la qualification qui va jouer le samedi. C'est-à-dire, c'est ce que je te disais, il y a un tirage au sort, les pilotes sont classés, mais après, il faut qu'ils se qualifient. Et là, on additionne par exemple celui qui va faire la première course, parce que là, chaque catégorie court séparément. Donc le MXGP va courir, et par exemple, Romain Febvre, s'il gagne sa catégorie, il va marquer un point. Bon. Et si le MX2 court après et que Tom Vial gagne sa catégorie, il va marquer un point. 1 et 1, ça fait 2. Bon, ils sont sûrs d'être qualifiés. Et en plus, comme ils ont gagné les qualifications en faisant 1 et 1, eh bien, c'est eux qui vont choisir la meilleure place pour la finale A. Tu vois ? Donc, c'est important, les qualifications. À l'inverse, s'il y avait des... Ils peuvent très bien avoir des soucis, et parce qu'il faut deux résultats, hein, pour être qualifié. Ils peuvent très bien avoir des soucis, un coup, une chute ou quelque chose comme ça, et puis d'être en finale B. Alors après, la finale B, faut gagner. Alors même si on se retrouve avec des équipes censées être plus faibles, faut quand même gagner. Parce que là, il faut finir premier de la finale B, sinon on n'est pas qualifié. Enfin, c'est quand même un coup de tonnerre sur le motocross des nations à Herné. Hein. Mais normalement, tout est fait pour que la compétition soit... Vraiment au top, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là les qualifications, c'est très très important pour le motocross nation. Donc les courses du samedi sont très importantes, et puis je te dis, on a aussi le samedi soir, donc on a la course, on a la finale C. Bon, c'est vrai que ce sont des équipes qui, comme ils ne sont pas qualifiés directement ni en A ni en B, c'est les moins bonnes équipes. Il va y avoir certainement les équipes, tu l'as dit, hein, là j'ai plus trop en mémoire les équipes, mais bon, il y a par exemple, il doit y avoir, le Mexique, est-ce qu'ils vont se qualifier? Il y a l'Islande, des pays comme ça. Ça va être difficile de se qualifier directement, donc ils sont sûrement en finale C, et après, ça va être se qualifier en finale B. Alors, chaque équipe... en fonction de hiérarchie mondiale, chacun a ses objectifs. Hein. La France, eux, c'est la victoire finale. Mais il y a d'autres équipes, c'est simplement de se qualifier en finale B. D'autres, c'est de dire, on est à des limites de se qualifier en finale A, j'espère qu'on va y arriver cette année. Et puis voilà, après, c'est comme ça.
Gilou, on te coupe, on met un morceau de musique et on te reprend sur le championnat du monde de MXGP et 2.
Ouais, on va dire un mot quand même, finir sur les nations, parce que je t'ai donné qu'une équipe pour gagner, c'est la France. Il y a quand même d'autres équipes pour la victoire.
Donc Gilou, ouais. Je te propose de passer une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Ça marche.
Et voilà, à tout de suite. Au retour avec Gilou pour le Motocross des Nations.
Oui, parce qu'on avait parlé des pronostics, tu me disais. Alors j'ai dit que la France était la grande favorite. En plus, c'est Herné, hein, c'est en France. Il va y avoir le public qui va pousser. Donc pour moi, ça va être la France qui va l'emporter. Mais j'ai expliqué le souci de Maxime Renault. Et côté australien, c'est eux les autres favoris parce qu'on va avoir les deux frères Chet et Hunter Lawrence qui ont gagné les championnats aux États-Unis et qui vont arriver vraiment en pleine confiance. Alors ce sont nos principaux adversaires, a priori, car eux, ils ont... alors comme tout à l'heure, je parlais des gens qui sont capables, des pilotes qui sont capables de gagner leur catégorie. Alors bien sûr, Chet Lawrence est capable de gagner sa catégorie, Hunter Lawrence aussi, comme Tom Vial, par exemple, hein, je l'avais dit. Mais ils ont un troisième pilote, c'est Dean Ferry, c'est un petit peu leur maillon faible. C'est pour ça que la France, elle n'a pas de maillon faible. Ensuite, c'est ça. De toute façon, il y a 9 pays qui se tiennent. Il y a l'Allemagne qui sera là, avec Ken Roczen, qui revient pour le Motocross des Nations. Il fait son retour, et c'est formidable qu'il soit là, avec en un MXGP. Tu as Simon Langenfinger qui sera en MX2, et Tom Koch, qui lui... malheureusement, c'est le maillon faible de l'équipe d'Allemagne. Alors, à chaque fois, toi, les autres équipes ont un maillon faible. Ensuite, on a la Belgique. Alors, la Belgique, tu as Jago Gerst, Lucas Konen et Liam Evert. Donc, ce sont des bons pilotes, tous très bons, mais c'est une équipe jeune. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à surtout que Lucas Konen et Liam Evert, on les a vus faire quand même des erreurs.
C'est leur jeunesse. C'est difficile.
Et puis après, on a également l'Espagne qui arrive vraiment au sommet avec quand même deux très gros pilotes au sommet. T'as Ruben Fernandez qui est en MXGP et champion du monde Jorge Prado. Bon, excusez du peu. Et en plus, leur pilote MX2 était un petit peu le maillon faible parce qu'ils avaient sélectionné David Bacchera, mais il s'est blessé en Angleterre et du coup, ils ont rappelé Oriol Oliver. Et Oriol Oliver, c'est un pilote qui, à mon avis, était le meilleur pilote MX2 pour l'Espagne. Donc l'Espagne est quand même une équipe très, très forte. Hein. Voilà. Après, on a, bien sûr, il y a la Suisse. Alors, Jérémy Suver, Arnaud Tonus et Valentin Guillot, là, c'est pareil, c'est du solide. Et enfin, bon, je vais pas passer à côté. Tu as les Américains. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas Thomas qui est blessé, donc il n'est pas là. Sexton, il était en fin de contrat, tout c'était le problème pour qu'il vienne, sur quel moto il courrait, tout ça, il n'est pas là. Mais on a Aaron Plessinger, R.J. Hampshire et Christian Craig. Alors eux, ils ont Plessinger et R.J. Hampshire qui sont excellents. Christian Craig, lui c'est le maillon faible, il a quasiment pas couru de l'année. Donc il a été blessé et tout, donc il revient à la compétition. Mais les Américains ont ça dans le sens, c'est-à-dire que lorsqu'ils courent pour leur pays, ils sont tout le temps déchaînés. Et ce sont des pilotes qui sont très spectaculaires. Alors à mon avis, il va y avoir du spectacle. Mais ils sont capables de gagner. Hein. Moi, au début, je disais, ils vont pas rentrer dans les 5 premières équipes. Mais finalement, quand je les vois revenir comme ils se préparent actuellement, on a eu des vidéos, tout ça, ils se préparent, ils prennent ça sérieusement. Bon, eh ben, on va voir. Mais donc voilà, c'est pour les nations. Pour moi, ça sera à nouveau la France vainqueur. Et derrière, je pense qu'il peut y avoir la Belgique, l'Australie et les États-Unis. Je vois. D'accord. Mais il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, comme je viens de dire. On verra bien. Hein. Mais ça s'annonce très serré derrière la France. Pour moi, ça va être très, très serré. Et il peut y avoir des surprises. Il y en a toujours aux nations.
Et par exemple, voilà. Tim Geiser capitaine de son équipe.
Donc,
mais...
lui, c'est pareil, il est capable de gagner sa catégorie. Mais il a un coéquipier en MX2, c'est Pancart. Alors Pancart, il est excellent et je crois qu'il a terminé dans 11 ou 12e de mémoire en championnat du monde MX2. Donc c'est un excellent pilote. Donc ils vont se qualifier, eux, en finale A, c'est certain. Hein. Tim Geiser avec Pancart, ils vont se qualifier. Par contre, ils ont un troisième pilote qui va courir en catégorie Open. Alors, il s'appelle, je ne connais pas, il s'appelle, attends, faut que je regarde sur un papier, Bunick, je crois quelque chose comme ça. C'est la liste, c'est le plus faible. Qu'est-ce qu'il pourra faire? On lui demandera de faire au moins un très bon résultat dans l'une de ces deux manches, mais ça reste quand même aléatoire. Bon, il faut quand même voir que c'est un motocross des nations qui est de très haut niveau. On a les champions du monde en titre qui sont là, parce que je ne l'ai pas dit, mais pour l'Italie, tu as Adamo, hein, qui est le champion du monde MX2.
Bon, ben voilà. Alors, ils ont un blessé, là, malheureusement, Guanagini, qui ne pourra pas courir, mais il est remplacé par Bonacorsi. Et Bonacorsi, c'est le champion d'Europe 250 cette année. Donc, c'est pareil, c'est des pilotes des jeunes. Et puis il y a Forato qui fera un catégorie MXGP. Donc, tout ça, ce sont des excellents pilotes. On a des conditions optimales parce qu'il va faire beau. Maintenant, ça, c'est la course. Hein. Le reste, voilà. Bon, il y a un truc que j'ai vu qui n'est pas terrible. Par contre, ils ont été remettre encore des grillages supplémentaires. Mais bon, on n'en parle plus.
tu vas être interdit d'entrer à RD.
Non, je suis bienvenu. Mais bon, il y a des choses qui m'échappent. Tu verras, Guy. Tu regarderas au bout de la ligne droite. Ils ont été remettre une deuxième rangée de grillages de 2 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait déjà ça. En plus, il y a le ruisseau qui passe au bout de la ligne droite. Bon, bref. Ils répondent certainement encore à des critères qui nous dépassent.
Donc, alors, voilà. un mot rapide là, sur le motocross, le Grand Prix GP,
oui.
et Mix 2, rapidement, parce que bon, il y a eu des blessés, enfin bon.
Bah, c'est vrai que c'est une saison un petit peu, moi je l'ai perçu comme telle, une saison décevante, parce que trop impactée par les blessures. Tim Gager, on en parlait à l'instant, il est revenu, il y avait déjà au moins 7 ou 8 Grands Prix de disputer, hein, il était blessé, donc il est voilà, il est arrivé pour le Grand Prix de la République Tchèque. Erlings s'est blessé à 2 reprises et il n'est pas là sur la fin de saison, hein, il n'est pas là, donc il ne court pas en motocross des nations. On a eu Romain Fèvre aussi qui s'était blessé, il est absent sur un Grand Prix, il est vice-champion du monde, Romain Fèvre. Hein. Mais voilà, donc en 450, il y a eu beaucoup trop de blessés. Et puis même bien sûr en 250 aussi en MX2 c'est le même problème. Et malheureusement je vois pas de décision pour essayer d'améliorer les choses, parce que quand il y a beaucoup de blessés comme ça, il y a quand même des raisons. Donc les raisons, c'est que les motos, les pilotes vont de plus en plus vite. Hein. Et donc voilà, dès l'instant qu'il chute, une chute, ça y est, c'est une épaule, c'est un pied, c'est quelque chose, et puis ils sont blessés. Quoi. Et c'est pas normal d'arriver à ce niveau de nombre de blessures, des blessures plus ou moins importantes, hein, mais je crois que toi, eh ben, j'ai repris le tableau là, de champion du monde sous les yeux. Adamo est champion du monde, c'est le seul dans le top 10 qui a fait tous les Grands Prix, qui est marqué dans toutes les manches. Ah, tous les autres ont été au moins absents. Ah non, il y a Liam Evert également, pardon. Mais sinon, tous les autres ont été blessés à diverses reprises dans le championnat. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Yago Gerz, on peut dire qu'il a été, il a encore raté le titre. C'était la dernière année qu'il pouvait courir en MX2 parce qu'il est atteint par la limite d'âge. Il est obligé de passer en MXGP l'année prochaine parce qu'il y a une limite d'âge qui est 23 ans en MX2. Et donc il est obligé de passer, il a 23 ans, donc l'année prochaine il est obligé de passer en 450. Mais à nouveau, il a été vice-champion du monde. C'est notre poulie d'or, hein, le poulie d'or belge en motocross. Voilà. Gerz, nouveau fois second du championnat du monde. Il a encore raté le titre. Mais c'est un très bon pilote en 450. Il nous l'a déjà prouvé en roulant aux Nations en 450. Il était très bon. Alors peut-être qu'il va enfin gagner un titre en championnat du monde dans la nouvelle catégorie l'année prochaine. Alors, ce qu'il faut, c'est que vraiment si je suis écouté ou entendu, c'est que les décisionnaires de ceux qui gèrent les responsables qui gèrent le motocross mondial vraiment fassent un travail sur les blessures, parce qu'aux États-Unis c'est pareil, hein, le nombre de blessés c'est la catastrophe, et voilà, il faut absolument qu'ils réduisent les vitesses. Alors pour ça, ben c'est très simple. Il suffit de mettre plus de, par exemple, de virages, de chicanes, si on peut dire. Et puis voilà, tu sais, quand on passe sur la route et qu'il y a un ralentisseur, on ralentit. Mmh. Hein. Donc en motocross, malheureusement, quand il y a une bosse, ils ralentissent pas. Donc la seule chose qui peut permettre de ralentir, c'est des virages, par exemple. Beaucoup plus de portions techniques, et pour que la vitesse ne soit pas constamment...
Et moins de tables aussi.
Bah les tables, c'est-à-dire, tu vois, c'est le côté pervers du motocross à la télé, c'est que ils veulent donner de belles images, des images spectaculaires. Bon, ben, aux États-Unis, il y a à Red Bed, tu as un saut qui s'appelle l'Aronco Leps. C'est un saut qui fait, je sais plus, au moins 40 mètres, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est la hauteur de trois immeubles, quand il y a deux, trois étages dans un immeuble, et quand ils sautent là-dessus, ils le prennent à chaque tour et tout. Et sur le circuit, il est réputé pour ce saut-là. Donc, en même temps, on dit c'est trop, mais en même temps, on est content lorsqu'ils vont sur le circuit parce qu'on dit oh là là, ils vont prendre le saut, là, ça va être spectaculaire. Le problème, je pense, les sauts, c'est une chose, mais je pense que c'est la vitesse qui est plutôt le souci numéro un. La vitesse, parce que les motos sont hyper puissantes, donc dès l'instant qu'un pilote qui fait un extérieur et un pilote qui prend l'intérieur, c'est-à-dire en coupant les gaz et en accélérant, il peut prendre le même saut que celui qui a fait l'extérieur plein gaz. Donc ça prouve la puissance des moteurs, des motos. Et en plus, comme toutes les suspensions, tout ça, ça corrige beaucoup d'erreurs. Les gars, ils prennent confiance et ils vont très vite. Le problème, c'est dès qu'il y a une erreur, bah, ça y est, c'est la sanction à tomber, c'est la blessure.
Il
y a beaucoup de chutes qui, malheureusement, débouchent sur une blessure. Et ça, c'est le drame du motocross. Il faut absolument que les dirigeants se prennent ce dossier au sérieux pour essayer de réduire les vitesses sur les circuits. On va voir ce que ça donne dans l'avenir, mais bon, voilà. On va pas trop dans ce sens-là. Hein.
Ok. Gilou, on va passer à un morceau de musique,
oui.
Et puis on va parler de ce championnat.
C'est le championnat du monde de Supercross,
voilà.
WSX.
A tout de suite, Gilou, juste après le morceau de musique.
Ok, à tout de suite, les gars.
Voilà, et on retrouve Gilou au téléphone, Guy.
Oui, pour le troisième interview concernant, tu sais, le fameux championnat...
Ah, c'est un championnat du monde. C'est ouais. Le championnat du monde de Supercross.
Donc déjà, l'année dernière, ça n'a pas très bien marché parce que plusieurs ouais. épreuves ont été annulées. Et cette année, déjà, je crois que c'est l'Indonésie qui ne organise plus.
Il y a plusieurs épreuves, ben c'est ça.
La France avec Lyon.
Ouais, il y a le problème, si tu veux, c'est que je rappelle deux secondes comment ça a été créé. En fait, le championnat du monde de Supercross existait et c'était la team qui avait signé un contrat, des accords avec la fédération américaine, l'AMA. Et en fait, le championnat de Supercross AMA, c'est-à-dire en fait le championnat de Supercross des États-Unis, avait valeur de championnat du monde. Là, donc ça a été comme ça pendant des années, pendant je ne sais plus 10-15 ans à peu près. Bref. À partir de là, il y a une rupture. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les causes. En tout cas, ils se sont séparés. Et donc le championnat américain redevenait, en termes de label, juste un championnat américain de Supercross. Et la FIM a donc décidé de créer son championnat du monde. Parce qu'il n'y a que la FIM qui peut décider d'un championnat du monde. Donc, ils ont décidé de créer un championnat du monde de Supercross. Un petit peu la surprise générale, moi le premier, on ne s'attendait pas à ça, parce que c'était absolument... calendrier sont complètement blindés, c'est-à-dire que les gars, ils ont des championnats aux États-Unis, tu as le championnat de Supercross, 17 épreuves. Derrière, tu avais un championnat de motocross, 12 épreuves. Bon, en championnat du monde en Europe, on va dire, tu as 20 Grands Prix, hein. Il n'y a plus de place pour un championnat de Supercross supplémentaire. Alors c'est bien beau de mettre un championnat en place avec beaucoup d'argent, parce qu'ils avaient des fonds qui venaient des Émirats, donc il y avait de l'argent, la tirelire, ça sortait, les billets, ça sortait de tous les côtés, donc ils ont pensé attirer tous les champions, avec surtout les Américains bien sûr, pour avoir les meilleurs pour faire ce championnat. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les Américains ont décidé de se protéger et de protéger leur championnat. Et donc, les Américains ont aussi... Il y a le promoteur du championnat de Supercross américain et le promoteur du championnat de motocross américain, alors qu'ils faisaient un peu la guerre avant, là, se sont mis autour de la table et ils ont décidé de travailler ensemble. Et les deux promoteurs ont décidé de créer un championnat qui s'appellera le Super Motocross, et qui se déroule sur 3 épreuves. Donc, du coup, aux États-Unis, tu as 17 Supercross pour le championnat américain. Derrière, il n'y a plus que 11 épreuves de motocross pour le championnat américain. Et derrière, ils ont fait 3, un mix entre le Supercross et le motocross, pour, en fait, couper l'herbe sous le pied de ce championnat de championnat du monde de Supercross qui a été créé, on va dire, en Europe, pour que leurs pilotes restent là. Et en plus, ils ont balancé, eux aussi, du fric. Il y a beaucoup de primes. C'était $1 million, je crois qu'il a gagné, le vainqueur. Bref. Il y avait vraiment beaucoup d'argent, et ce qui fait que aussi bien les teams aux États-Unis, tout ça, et ben, nous, on participe pas. Et ben, ils se sont retrouvés un peu en Europe. Donc, c'est un promoteur australien, c'est SX Global, et s'est retrouvé un petit peu à avoir des pilotes de second plan pour faire son championnat du monde dans les deux catégories 250 et 450. Et eux aussi, malgré qu'ils balancent du fric, ben, c'était pas trop crédible. Et ils ont réussi à faire un contrat particulier à Ken Roczen pour qu'il vienne courir. Donc Roczen a décidé de venir courir. Et l'année dernière, il a fait venir sur une course Eli Tomac, l'Américain. Pareil, en lui donnant une bonne prime pour qu'il vienne. Il a fait qu'une course d'ailleurs. Et bon, bah, ces deux pilotes, ils sont au-dessus des autres, évidemment. Et Thomas qui a fait cette course-là, et puis après, il a arrêté. Et Roczen a fait ce championnat. Et évidemment, l'année dernière, je crois qu'il y a eu trois courses. Et il a été champion du monde. Hein. Et forcément, vu la concurrence, il dominait trop l'épreuve. Et cette année, c'est encore pire, parce que c'est annoncé six ou sept épreuves, et en fait les épreuves ont toutes été annulées les unes derrière les autres. Le principal fournisseur d'argent chez les Émirats, ben, ils ont coupé la planche à billets, ce qui fait qu'ils se sont retirés du projet du promoteur, qui ont recherché depuis un autre financeur. Après, a priori, ils en ont retrouvé un autre, mais bon, on sait pas trop comment ça va évoluer. Toujours est-il qu'il y avait des épreuves qui étaient prévues, et il y en a eu qu'une qui s'est déroulée il y a 2 mois, qui a été gagnée par Rodven. Mm-hmm. Et voilà. Et puis après, les épreuves de 150, c'était quand même des pilotes, de second plan. C'est des pilotes qui jouent pas les titres aux États-Unis, quoi. Alors, le problème, c'est la crédibilité, ben, déjà sur le plan sportif. Et puis en plus, ils font de la concurrence, et c'est une concurrence agressive comme façon de faire. Et là, cette année, ils se retrouvent avec... il y a une épreuve, comme tu l'as dit, qui était prévue en France, à Lyon, et finalement qui a été annulée. Ah oui, et dès l'instant que c'est eux qui ils financent tout, ils financent donc la location du... Parce que là, c'était pas dans un petit... C'était le stade de Lyon, hein, qui prenait le stade de foot. Donc, faut le remplir, le stade. Hein. voilà, et donc ils ont payé ça, et puis finalement, ben, après, ils ont dû se rendre compte qu'ils allaient à la catastrophe. Quoi, voilà, alors petit à petit, ils se sont repliés sur... moins d'épreuves. Alors je crois qu'il y en a une, donc il y en a une qui s'est déroulée là. Il va y en avoir une autre en Australie. Ils vont la faire, je crois, sur deux journées. Comme ça fera 3 courses avec celle qui a déjà eu lieu. Et puis je me demande s'ils vont pas en faire une dans les Émirats, quelque part par là. On verra, hein, on verra la suite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui c'est mal né, cette histoire-là. Et puis je pense que voilà, il faut, ça va pas pouvoir durer comme ça, parce que balancer quand même beaucoup d'argent et en retour ne pas avoir un retour sur investissement, hein. Ce sont des promoteurs, hein, donc c'est pas comme je dis souvent, c'est pas l'abbé Pierre. Hein. ils font ça pour investir, mais pour gagner de l'argent. Et si vraiment ils s'aperçoivent que c'est un truc sans fond, et ben l'argent qui part et puis qui rentre pas, ça va pas durer longtemps. Alors je pense que ça va tenir peut-être 2 ans, 3 ans, et puis ça va disparaître. Ça, c'est mon impression. Certains disent que ça va peut-être rebondir, on va voir l'avenir. Mais pour moi, c'est pas bon pour le motocross ce qui a été fait, parce que ça a été mal préparé. Et un projet comme ça, il faut que ce soit un projet avec les accords des teams, des écuries, de motos, hein, toutes les marques, toutes les marques courent soit le championnat du monde, soit aux États-Unis. Et de rajouter une compétition qui va se dérouler en plus un peu partout. Alors t'imagines d'aller en Australie, tout à l'heure je parlais du Japon qui venait pas hermé, là on leur dit, ben allez hop, vous allez en Australie, c'est le voyage, ça coûte pas cher du tout. Quoi. Donc, voilà, et puis est-ce que eux ce sont des constructeurs, donc est-ce qu'ils vont avoir envie de s'investir dans ces compétitions pour vendre plus de motos, c'est pas certain non plus. Donc c'est mal barré, cette histoire, et ça fait mauvais effet, ça donne pour moi une mauvaise image.
Et ouais. Pour les pilotes aussi, parce que sinon les pilotes vont rouler chaque week-end, toute l'année presque.
Oui, mais alors là c'est pas les mêmes, premièrement.
Oui, c'est pas les mêmes, mais pour l'instant...
Eux, ils sont plutôt pour le championnat de championnat du monde de Supercross, parce que vu les primes qui sont
données, ouais.
Eux, ils sont contents, ils disent, mais payez. Encore une fois, je crois que Prado, l'autre jour, il y a eu une photo. Prado, pour son titre de champion du monde, il a dû gagner au niveau des fédérales, je crois, 5000 euros.
Ouais.
Alors, je me rends compte, il y a Jet Clarence qui vient de gagner. J'en parlais tout à l'heure des 3 courses là, qui ont été rajoutées au championnat américain, le Super Motocross. Il a gagné plus d'1 million d'euros. Alors voilà, comme dirait l'autre, choisis ton camp, camarade.
Ouais.
L'argent, ce sont les pilotes, ils prennent de gros risques. Alors s'ils prennent de gros risques pour une course qui leur apporte pas grand-chose, et bien en championnat du monde, on me dit souvent que les pilotes perdent de l'argent. Ils courent, mais en fait, ils travaillent à côté. C'est-à-dire, en gros, il va y avoir un qui va être plombier, il va travailler, il va être déménageur, il va faire des trucs, parce que de toute façon, la semaine, il est obligé de travailler, parce qu'il ne gagne pas sa vie avec sa vie de pilote de motocross. Et ça, c'est pas normal. Là aussi, il y a des choses à revoir. De toute façon, pour moi, il y a maintenant dans le motocross, il faut des gens à la tête qui sachent prendre des décisions et qui n'hésitent pas à retourner la table pour vraiment mettre à plat et puis faire un projet sur 10 ans, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses à revoir, et c'est dommage que ça se passe pas, tu vois. Alors maintenant, ils en sont à faire de la promotion pour, notamment en France, et ça je regrette, pour l'électrocross, que je refuse d'appeler moto de cross, parce qu'avec leur moto électrique, voilà, ils... ah, avec ça, ça va être formidable. Ah, moi, pouvoir faire du motocross sans faire de bruit. Mais bien sûr, mais bien sûr.
Ok, non, Gilou, Gilou, voilà. Gilou, 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 Gilou. Donc, on t'a pris trois fois cette, ce début de saison radiophonique.
Alors, toi, t'as pas donné ton pronostic, Guy ?
Eh ben, bon, je dirais pas la Pologne. Hein.
Elle court, hein.
J'ai vu.
Bon, alors, moi, France, 1 France, 2 Australie, allez, puis 3, non, 1 France, 2 États-Unis, 3 Belgique. Allez, hop.
Ouais, enfin, bon, moi, c'est sûr que la France, elle a... Elle doit être sur le haut du podium.
Ouais.
Bon, les Australiens, bon, ils sont peut-être pas habitués sur des circuits européens.
Alors, ils ont couru en Europe, hein, Jet Lawrence et Hunter Lawrence. Hein.
Ouais,
ils ont commencé, ils étaient dans le team à l'époque de Liga Lancelot, hein, Hunter Lawrence. Ah ouais, ils connaissent. Non, non, mais eux deux, les deux frères sont bons. C'est surtout leur troisième pilote, est-ce qu'il sera à la hauteur, on verra bien.
Ok.
Bon, ben, vous avez encore un petit peu de temps pour réviser la Marseille. Hein.
D'accord, on arrive. De toute façon, tu nous as dit les horaires, hein, 13h30, hein, c'est ça, hein.
13h.
Ah, bah, là, c'est un peu pour la deuxième manche, alors.
Voilà.
On arrive.
On arrive.
Ok, ça marche, les gars.
Allez, salut, Gilou.
Allez, ciao. Ciao.
Guy, tu vas nous parler du championnat de France des courses sur sable et celui du speedway. C'est l'épilogue.
Épilogue, oui. Alors, c'est deux catégories, deux disciplines différentes, bien sûr. Le championnat de France des courses sur sable va débuter à Berck-sur-Mer. Alors, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, ça sera à Majex. C'est dans le sud-ouest, dans les Landes. Et la troisième épreuve, c'est la Ronde des Sables de Longplage, dont on connaît très bien la présidente, Isabelle Andrieux. Alors, elle m'a dit qu'il y avait 1050 pilotes inscrits dans cette catégorie. Et elle a 870 licenciés, le club du motoclub de Longplage. Ensuite, quatrième épreuve, c'est au mois de décembre, le 2 et le 3 décembre, à Osgore. Une semaine plus tard, Saint-Léger de Blason, c'est le 9 et le 10. La sixième épreuve, on est en 2024 là, avec Graillan, qui sera disputé le 13 et le 14 janvier. Et la septième, c'est le Touquet, donc toi, tu es participant.
Ah, je ne sais pas encore, Guy. Hein.
Non, parce que,
Il faut préparer la machine à moto, tu sais, ça c'est pas comme ça à l'improviste.
Et je crois qu'il va y avoir un problème avec la course vintage.
Oui, pourquoi
du Touquet, parce que les pilotes qui vont disputer dimanche la course traditionnelle s'inscrivent à la course vintage
du vendredi
pour s'entraîner.
Ouais, la vintage, ouais.
Ouais.
Ça leur fait un entraînement supplémentaire.
Ouais. Mais souvent, c'est déjà des bons pilotes.
Mais apparemment, cette année, c'est pas possible. Enfin, en 2024, ce sera pas possible. Bah, les pilotes, ils vont devoir choisir entre le vintage ou la course du dimanche.
Ouais, enfin, bon.
Ah, il n'y a pas de bon, c'est comme ça.
Non, mais il y aura. Et c'est vrai que, par exemple, j'en connais sans citer de nom. Des pilotes, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un gars, je ne me rappelle plus de son nom, il gagne la course vintage et le lendemain, il finit 3e ou 4e dans la grande course.
Oui, là, d'après ce que j'ai vu dans le règlement et dans les journaux, ce sera plus possible en 2024.
Et ensuite, il y a beaucoup de pilotes, il y a presque autant de pilotes que le dimanche, il y a plus de 800, 900 pilotes. Il faut se rappeler qu'à la première épreuve de la course de l'enduro des sables, je crois qu'il y a eu 180 pilotes. Bon, c'était plus facile à suivre avec les pilotes de l'époque, avec les machines d'époque, parce que maintenant, des machines d'époque, faut bien chercher, hein. Une machine vraiment...
Il n'y en a plus, Guy, des machines d'époque.
La dernière suspension, le cadre, enfin...
Éventuellement, il n'y a que moi.
C'est la course.
Il n'y a que moi qui est encore là.
Ah, il n'y a que toi, ouais, c'est vrai, avec ton fils.
Voilà. Et avec la machine d'époque, oui.
Vous collaborez à la course vintage parce que vous avez des motos vintage.
Voilà. À faire vivre tous ces motos qui ont participé au motocross dans les années 80.
Voilà. Alors, sans transition, nous passons à une autre discipline, c'est le speedway. Alors, le speedway, ça s'est déroulé sur 10 épreuves en Europe. Et la finale avait lieu samedi dernier, à Torun. C'est la ville de naissance de Copernic, qui a découvert si la Terre tournait. Enfin bref, 30 000 personnes quand même.
Effectivement, il y avait raison, elle tournait.
Ouais. Alors, ce qui s'est passé cette année, bizarrement, à l'avant-dernière épreuve qui s'est disputée au Danemark, le commissaire technique a fait, retirer de la course le Polonais Bartosz Zarmlik, parce qu'il n'avait pas la combinaison adéquate.
C'est-à-dire avec la sécurité.
Il n'y avait pas son numéro déjà dans le dos.
Ah oui, ça c'est un problème, c'est un souci.
Aux entraînements, à l'entraînement.
Ah oui, l'entraînement.
Mais c'était pas en course. Hein. Mmh. L'entraînement se fait le vendredi et se fait individuellement. Donc il a été, pas licencié, mais interdit. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le commissaire c'est un Suédois et le deuxième prétendant au Polonais c'était un Suédois.
C'est un Suédois. Ouais. C'est louche.
Ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Bon. Alors, cette finale, elle a eu lieu. Le Suédois avait ses chances d'être champion, mais il y avait quand même 8 points de retard sur le Polonais. Mais le Polonais a quand même un grain au-dessus, un grain de, comment c'est, de scorie au-dessus du Suédois. Donc, Bartosz Zarmlik, c'est son 4e titre d'affilée. Donc, c'est très rare d'avoir 4 titres d'affilée. Donc voilà, le championnat de speedway,
c'est terminé avec un bon pilote, c'était ce Polonais.
Est-ce que tu peux nous dire combien il y a d'épreuves dans ce championnat du monde de speedway ?
Il y a 10 épreuves.
Et principalement dans les pays de l'Est ? Du Nord.
Pas forcément, c'est en Suède, Danemark, Pologne, Allemagne, en Slovaquie, assez près de chez nous, quoi, malgré tout. Alors, la prochaine émission, je parlerai des équipes de France, parce qu'il y a eu une coupe du monde de speedway, et les Français qui ont bien marché, donc qui ont gagné une manche. Donc, dans le public, il y avait trois personnes françaises. Qui ont agi. Alors, la caméra, elle les a filmés parce qu'un drapeau français. Et puis, ces personnes-là, je les connais.
Ah ouais.
Alors, j'ai dit, c'est toi, à la télé. Elle dit, on était pour encourager l'équipe de France.
Faudrait que tu nous parles un petit peu comment se déroulent les épreuves aussi. Il n'y a pas beaucoup de tours. C'est un petit peu comme l'Ice Race.
Ouais, à peu près. Ouais, 4 tours. Et cette année, c'est les. Alors, personne n'en parle. C'est les 100 ans du speedway. Ça fait 100 ans que.
Que cette discipline existe.
Et la première épreuve a eu lieu en Australie. Ensuite, les épreuves se sont disputées internationales. Le championnat du monde a débuté en 1936 et principalement sur le circuit, sur le stade de Wembley. Et ensuite, le speedway a parti un peu partout en Europe.
Rock City. Everybody's gonna move their feet. Look out. Everybody's gonna leave their seat.
On se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain, en effet.
Avec peut-être des informations donc de Sidcar Cross,
ah
comme
oui,
Gilou le désir.
Pourquoi pas,
Et oui, parce que c'est une discipline aussi qui est pas très médiatisée.
Non.
Donc nous, on pourrait en parler.
Grâce à nous, on en parle.
Voilà, très bien, merci. Ben écoute, merci pour toutes ces infos. Hein, et puis on se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain.